Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Mon invité d'aujourd'hui est de faible notoriété. Normal, voilà moins de 6 mois qu'elle est montpelliéraine. Mais à la tête d'une entreprise de fort rayonnement, une sorte d'institution de grande visibilité, la librairie Sorams, son principal site, depuis 1978 à la proue du Triangle. Florence de Pornac, merci de venir au micro de Divergence FM pour nous raconter votre Montpellier. Depuis avril dernier, vous êtes la directrice générale des librairies Sorams, avec en poche un master de droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs mobilières. Vous avez été juriste, mais en 2007, vous êtes engagée dans une autre voie, à 38 ans, en obtenant la licence professionnelle métier du livre, à l'IUT Bordeaux-Montaigne. Cette licence a donc exprimé ce nouveau choix professionnel. Votre parcours bordelais s'est poursuivi pendant 15 ans. Vous y avez appris le métier de libraire, puis dirigé successivement 2 librairies. Alors bien entendu, première question, pourquoi avez-vous choisi, pourquoi avez-vous voulu ce changement radical d'univers professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais en fait, je pensais effectivement me diriger vers des études d'avocat, voilà, qui n'ont pas pu se faire parce que j'ai été une très jeune maman. Voilà, et voilà, j'ai travaillé un petit peu effectivement dans le milieu bancaire pendant quelques années. Et ensuite, j'ai fait une grande pause pour m'occuper de mes 4 enfants. Je me suis aperçue pendant ces années-là que je n'avais de cesse de les emmener dans les bibliothèques et les librairies. Et c'était un univers qui me fascinait, voilà, dans lequel j'avais vraiment envie de...
Sans
le connaître et sans même y croire, en fait, je pensais qu'effectivement, je devais m'orienter dans ces métiers-là. Et en 2006, j'ai sauté le pas, j'ai fait un dossier et j'ai été retenue en licence professionnelle métier du livre et ça a été le nouveau départ. Et en même temps, puisque c'était un diplôme professionnalisant, j'ai eu la chance d'être prise comme stagiaire par mon futur employeur, donc à Niort.
Oui, une étape de par Niort avant.
Mon étape majeure. Hein, Niort, j'y ai passé 18 ans. J'ai fait ce stage pendant 1 an et stage à l'issue duquel j'ai été embauchée et dans cette librairie, j'ai franchi à peu près toutes les étapes.
Il n'y a pas eu de déception, donc?
Non, aucune déception.
Quand vous avez découvert le métier, on en parlera dans
ces... Non, pas du tout, parce que c'était vraiment une passion. Et puis, j'ai une certaine forme de dynamisme, on va dire, parce que c'est nécessaire en commerce. On a besoin d'avoir beaucoup d'énergie, surtout en librairie. C'est un métier très physique, on l'oublie souvent. J'ai eu la chance d'être encadrée par 2 gérants qui m'ont fait confiance, d'abord en m'embauchant comme libraire, responsable de la littérature. Et puis, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et en 2014, ils ont ouvert une deuxième librairie dont ils m'ont confié totalement la création, la constitution, les embauches, enfin vraiment voilà, le de A à Z. Et pour faire court, j'ai dirigé ces 2 librairies ensuite pendant 6 ans.
Très bien.
Voilà.
Donc, cette expérience, bien sûr, qui vous sert ici à Montpellier, même si le contexte est la taille de l'entreprise. Il y a un changement d'échelle dont on pourra
parler. Voilà, il y a un changement d'échelle, mais le fait d'avoir été directrice de librairie sur 2 sites, c'était déjà quand même une expérience que j'avais eue. Voilà.
Donc, on va parler tout à l'heure, bien entendu, de librairie et de livres, mais avant, vous allez nous raconter votre Montpellier. Florence de Mornac, qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez commencé à connaître Montpellier comme habitante? Quels sont les traits caractéristiques de la ville que vous retenez?
Alors, c'est sûr que moi, j'ai un parcours... En fait, je suis lyonnaise au départ, donc j'étais plutôt une habituée des grandes villes. J'ai passé 30 ans à Lyon, 6 ans à Paris, 18 ans à Niort. Et c'est vrai que la grande ville me manquait un peu parce que Niort, c'est certes une très jolie ville.
Oui, mais une grande ville, ça offre des opportunités.
Mais c'est vrai qu'il y avait un manque Sur deux points, je dirais, la jeunesse à Niort a tendance à partir, puisqu'on n'a qu'un tout petit pôle universitaire là-bas. Et arriver à Montpellier, c'est ce qui est le plus frappant. Quand on a plus ce genre de référence dans sa vie de tous les jours, ben c'est le nombre de jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement agréable de retrouver,
stimulant,
tout à fait, de retrouver cette jeunesse. Et deuxième chose, ben c'est une ville qui est extrêmement dynamique au niveau culturel. Donc ça aussi, pour moi, c'était très, très enthousiasmant. Ensuite, troisième point, ben c'est une ville absolument magnifique hein, au niveau de son patrimoine architectural. Voilà. Et puis, dernière chose, mais pas des moindres, ben c'est le sud. Voilà.
C'est le sud, d'accord.
Et alors, ça, c'était vraiment quelque chose dont je rêvais depuis des années.
Non. Voilà. Alors donc, vous précédez un peu des questions que j'avais en tête sur quel est le style de Montpellier, quoi. En gros, est-ce bon, je ne demande pas comme ça, ex abrupto, de développer une théorie, mais par rapport aux grandes villes que vous connaissez, notamment Lyon et Bordeaux, quelle est la caractéristique de Montpellier ? Bon, il y a le côté sud, le soleil, j'imagine, la proximité, la mer. Voilà, quelle est la Montpellier touch, pour le dire d'une autre manière.
Eh bien, écoutez, moi, je trouve que tous les contacts que j'ai depuis plusieurs mois avec les gens, je trouve que les gens sont très ouverts, ils parlent très facilement.
Alors, on ne dit pas toujours ça.
Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, voilà, c'est l'impression, c'est mon impression.
Oui,
je trouve que les commerçants sont extrêmement sympathiques. Voilà, j'ai vraiment cette impression d'accueil, de sympathie. Ça se passe très bien. Moi, je suis
très bien.
Enchantée d'être à Montpellier.
Bon, alors donc, poursuivons donc après ce coup de chapeau. Alors, revenons à Sorin, bien entendu. Florence de Mornac, rappelez-nous les différentes implantations des librairies Sorin. On va commencer par ça pour voir où vous en êtes dans ce dispositif qui a bien sûr bougé pour diverses raisons, la crise de Covid notamment ces dernières années. Quelle est l'offre des implantations des librairies Sorin sous cette même enseigne que vous pouvez nous rappeler ?
Eh bien, écoutez, on a maintenant désormais 4 points de vente. Vous avez bien sûr la librairie Amiral, on va dire, à Comédie, hein, dans le Triangle. Donc là, c'est vraiment la librairie de référence. Nous avons une deuxième librairie au musée Fabre, qui est beaucoup plus modeste en taille, mais voilà, qui est spécialisée dans les beaux-arts.
Oui, parce qu'il est très fréquenté, parce qu'on sort d'une expo, on passe nécessairement
tout à fait.
Alors, au moins acheter une carte postale et voir plus.
Voilà, tout à fait. Donc c'est une librairie qui tourne bien quand il y a des très bonnes expos, comme en ce moment. Nous avons une librairie à Alès également. Et puis,
ça, c'est moins connu, en tout cas.
Ça, c'est moins connu, effectivement, mais c'est une librairie qui a toute sa place en plein centre-ville d'Alès. En plus, la mairie a refait des travaux devant la librairie, donc on a la chance d'avoir un nouvel environnement plutôt sympathique, voilà, refait à neuf. Et puis, on a le site d'Odyssée, qui, comme vous le savez, a fermé l'hiver dernier.
Et il a fermé parce que très spacieux, très coûteux,
parce que
un loyer.
Trop important en termes de surface. Mais contrairement, il faut bien le redire, on a gardé une implantation dans Odyssée, dans la partie basse d'Odyssée, ce qu'on appelle nous un pop-up.
Pop-up store, oui,
voilà,
c'est ça.
Voilà, un pop-store.
Librairie éphémère, donc.
Une librairie qui est dédiée uniquement aux mangas, BD et à la jeunesse. Voilà, et donc le projet est de réouvrir à la place du magasin Zara et de réouvrir d'ici quelques mois à la place de ce
D'accord.
magasin quand les travaux seront faits.
Voilà. Alors, la réouverture d'une implantation à Odysseum était annoncée au départ pour
oui,
novembre.
Oui, mais on a toujours été un peu vague. Ouais. On n'a jamais. On avait quand même un doute et ça ne dépendait pas de nous. Hein, les travaux de Zara ont pris du retard, donc on a dû s'adapter.
Toi, rien de dans l'armement, je dirais, dans ce
report. Non,
c'est un report, c'est classique.
Le projet est maintenu, il n'y a pas de problème. Voilà, par contre, il est juste repoussé de quelques mois.
Très bien. Alors, il y avait une autre implantation de l'Université Paul Valéry, qui, elle, bon, était un peu la victime des événements, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ?
Voilà, alors, nous avons fermé l'unité Paul Valéry en accord avec les responsables de l'université. Ils nous ont, bien sûr, tendu la main pour de futures collaborations. Ils ont bien conscience que c'était plus tenable au niveau de la gestion et parce qu'il n'y avait vraiment plus aucune fréquentation quoi, à cause des travaux. Voilà.
D'accord. Bien, quand on l'a vu d'ensemble, on l'a mis sur la carte de Montpellier et au-delà. Bon, ce que sont les librairies Sorams, alors... Bon, les Montpellierens, certains Montpellierens s'en souviennent. En 2017, Sorams était affaibli par des dettes, en grande difficulté, voire menacé de mort. Démon Pélérin ont assuré sa survie, puis, me semble-t-il, une nouvelle phase de sa trajectoire. L'architecte François Fontès, à la tête du groupe Hugard, avec sa filiale Amétis, orientée vers la promotion immobilière. À première vue, là aussi, des secteurs très éloignés du monde du livre. Dans une interview donnée en juillet à Midi Libre, François Fontès disait « Le chiffre d'affaires est en baisse, mais il n'y a pas d'inquiétude majeure. En tant que directrice générale, vous avez des responsabilités de gestionnaire. Vous n'allez pas contredire votre patron, mais pouvez-vous nous confirmer que s'il y a encore quelques secousses ou quelques réglages, les tempêtes sont finies, sont lointaines ?»
Alors, moi, je vous répondrai que c'est comme dans toutes les entreprises. Voilà, une entreprise ne connaît pas que des périodes de croissance.
Je vous coupe là, on l'oublie, parce que quand on est lecteur et qu'on fréquente votre librairie et d'autres, on perd un peu de vue que c'est du business, pour
oui,
le coup.
Oui, effectivement.
Et que ces impératifs de gestion...
Tout à fait, c'est un commerce, la librairie.
Voilà, c'est un commerce.
C'est un commerce et ce n'est pas uniquement des rêves. Voilà, il y a des salaires à sortir à la fin du mois. Et donc, voilà, c'est une entreprise au sens propre du terme. Et comme toutes les entreprises, elle peut connaître des périodes de haut, de bas. Et voilà, moi, je suis arrivée il y a 6 mois et je mets en œuvre avec ma directrice du développement, des nouvelles modes de gestion, des nouvelles solutions pour remonter la pente. Voilà, on est vraiment pleine d'idées pour refaire partir cette belle machine, parce que Soramp, c'est quand même une référence. Et on a la chance aussi d'avoir des équipes de libraires aguerris sur lesquelles on peut s'appuyer.
Ils ont joué, me semble, un rôle déterminant pour peut-être alerter sur la situation de l'entreprise.
Et
maintenant, pour maintenir la flamme, me semble-t-il.
Tout à fait. Et voilà, on met en place toutes sortes d'actions. Il y a beaucoup de travail interne au niveau des process à changer, à moderniser. Voilà, c'est vrai que avec Marie-Aurélie Buffet, donc mon adjointe, on est depuis 5 ans, on est les premières, libraires à diriger cette librairie, puisque auparavant, c'était des personnes qui n'étaient pas directement issues des métiers du livre. Et on a la chance de pouvoir apporter notre expérience libraire, peut-être qui faisait un peu défaut. Voilà, bon, après, on verra.
Donc, est-ce que c'est, d'abord, un sujet que j'avais en tête, un peu la conjugaison, je dirais, du savoir-faire de gestionnaire, d'une entreprise comme une autre, un commerce, même s'il ne vend pas des produits qui sont banals, et d'une passion particulière liée précisément au livre, quoi, et au...
Non, mais bien sûr. Mais j'insiste sur ce que vous venez de dire, parce que c'est vraiment un commerce. La librairie, on achète et on revend. Donc, on répond vraiment à la notion de commerce. Et voilà, et on est obligé aussi de s'adapter à la situation économique de l'entreprise. Et parfois, effectivement, on est obligé de faire certains sacrifices, de s'adapter. Alors, ça peut générer des inquiétudes, mais notre actionnaire nous soutient. Il me le renouvelle régulièrement.
Il n'y a pas de souci à ce jour.
Pour le moment, écoutez, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la barre.
Alors, les questions, internes, de process, d'organisation, de gestion des stocks, on comprend que c'est important. Mais dans votre offre, l'offre de livres et des produits associés aux livres, dans la relation avec le lecteur, est-ce qu'il y a des nouvelles orientations, des inflexions sur lesquelles vous travaillez et que vous avez peut-être commencé à mettre en œuvre dans la partie visible, je dirais, il y a la partie invisible, et puis dans la partie visible, celle qui concerne les lecteurs et les lectrices. Est-ce que vous avez une politique, notamment, je dirais, d'offres de livres, de promotion ou autre, qui a changé ou qui peut changer?
Non, puisqu'on travaille avec les éditeurs avec lesquels on travaille depuis tout le temps. Donc ça, pour moi, on répond vraiment à l'offre éditoriale. Enfin, on s'aligne sur l'offre éditoriale. On propose l'offre la plus large possible à nos lecteurs. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout avoir, contrairement à ce qui a peut-être été le cas pendant de nombreuses années où on trouvait beaucoup, beaucoup de choses chez Soramps.
Eh bien, il y a une offre qui a un nombre de... Je ne trouve pas le mot de livres, enfin, en tout cas...
De référence.
De référence, voilà. Bon, je n'ai pas nécessairement ce sentiment d'avoir une référence qui a bougé. Bon, il y a eu des développements, par exemple, le volet manga s'est fortement développé.
Oui, on sait que c'est un secteur
très porteur.
Ça, c'est national. Ouais. Voilà, en ce moment, par exemple, c'est la New Romance qui se développe. On essaye de répondre à cette demande, mais voilà, on a aussi dans l'année une saisonnalité importante. Donc, cette saisonnalité nous oblige parfois à faire des choix au niveau de notre offre et de nous concentrer sur tel ou tel rayon au fil de l'année.
Pour des raisons, je dirais, physiques d'espace disponible.
Alors, de l'espace, on en a. Ça, ce n'est pas tellement ce qui nous manque, mais voilà, c'est plutôt de devoir faire des choix, tout simplement, et de répondre le plus possible, le mieux possible à la demande. Et puis aussi de présenter l'offre éditoriale la plus large possible. Voilà.
Ouais. Bon, ça c'est clair. Après, il y a toujours, comment dire, vous le disiez, hein, comme ce n'est pas complet, bon, j'ai été amené à chercher, par exemple personnel, un livre sur la danse, la chorégraphie. Bon, j'ai fini par trouver un beau livre à Spina Bausch. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, quoi. Donc, il y a un secteur très étroit. Bon, en musique, par exemple, Rayon Voisin, bon, le choix était immense. Bon, là, c'est étroit. Bon, ce n'est pas une critique, c'est pour montrer.
Je crois que la
multiplicité de la production éditoriale dans ces
nous oblige à faire des choix importants, tout à fait. Et puis après, bien sûr, la commande client est de l'ordre du possible. On peut tout commander, hein. Voilà, il n'y a pas de problème.
Alors, est-ce que, bon, un phénomène que vous connaissez bien, que vous suivez avec attention, j'imagine, les achats de livres en ligne par quelques grandes.
On a un site d'achat en ligne.
Je pense que c'est pas bien connu, ça, parce qu'on a en tête, hein, bon, Amazon, oui. pour citer le plus présent ou le plus puissant, cette capacité, ce service rendu au lecteur, peut-être faut-il le rappeler, parce qu'il permet de commander
à
peu près tout ce qu'on trouve.
Tout ce que vous voulez est commandable sur notre site.
Livrable à domicile ou à la librairie.
Oui, tout à fait. Vous avez les deux options. Vous pouvez retirer en magasin ou vous faire livrer à domicile. Voilà.
D'accord.
Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est un service qui est proposé depuis de nombreuses années déjà.
Alors, on va y revenir parce que c'est un peu le fil conducteur de notre entretien, madame. Votre définition du métier de libraire, je ne dis pas dans votre définition de directrice générale de plusieurs librairies, du métier de libraire, vous avez commencé comme ça, vous l'avez expliqué. Qu'est-ce que c'est être libraire à vos yeux? Et qu'est-ce que vous dites peut-être à vos collaborateurs, collaboratrices, notamment ceux que vous êtes amenés à recruter?
Alors, pour moi, le métier de libraire, c'est le mariage réussi entre une passion qui vous porte et l'amour de la gestion. Parce qu'on peut être passionné de lecture si on n'est pas attentif à sa gestion de stock. On va droit dans le mur. Donc, c'est parfois pas évident pour certaines personnes de réaliser que, comme je vous le disais précédemment, c'est un commerce et que si vous voulez absolument mener votre barque à bon port, eh bien, il y a des notions de gestion comptable, gestion de stock qui sont impératives. Voilà. Donc, cette passion, elle peut être nourrie, soutenue que par du bon sens commercial. Voilà.
Voilà, donc le professionnalisme, il se situe donc dans la conjugaison de ces deux aptitudes, peut-être de ces deux attitudes et peut-être de deux aptitudes aussi.
Et ne pas oublier aussi qu'on est là pour servir un client. Ça veut dire aller vers le client, lui proposer des services. Alors on essaye de faire le plus de choses possible. Tout n'est pas toujours le fait, mais voilà.
Donc, ça veut dire le volet conseil
le volet conseil est très
important.
Pas
simplement pour trouver le livre au bon endroit, mais pour être orienté dans sa recherche.
Tout à fait, voilà. C'est la conjugaison de ce que je vous disais. Donc, cette passion que vous allez communiquer au client et puis aussi savoir tout simplement gérer ses stocks. Et c'est le plus important pour un libraire.
Oui, parce que les stocks, c'est de l'argent.
C'est du
mètre carré aussi.
Tout à fait. Alors, après, il y a des choix à faire qu'on peut assumer. Mais moi, c'est ma vision du métier. Et jusqu'à présent, j'ai appris comme ça.
Oui, c'est constante. Ces fondamentaux du métier se sont perpétués. Les évolutions du monde de l'édition ou de la pratique de la lecture ou de l'achat des livres n'ont pas impacté, ce socle-là de compétences.
Non, et puis on a des outils qui sont de plus en plus performants au niveau informatique pour nous aider dans la bonne gestion des achats. Parce que voilà, bien vendre, c'est surtout bien acheter au bon moment, des bonnes quantités, les mettre en place au bon endroit. Voilà, c'est aussi du bon sens commercial, tout simplement.
Ça relève de l'accueil. Alors, le réaménagement de la librairie principale, je pense qu'il date d'il y a 2-3 ans de mémoire, me semble-t-il, joue un grand rôle pour... on voit bien quand même des gens qui savent aménager des espaces qui ont mis la main dans la qualité de l'accueil, je dirais, dans les éclairages. On peut s'asseoir, dans une librairie, on ne peut pas s'asseoir pour feuilleter un livre pendant 10 minutes. Cette partie-là de confort.
Oui.
Parce que quand on rentre en général, ça ne se passe pas en 5 minutes. On vadrouille, on furette. Est-ce que cet aspect-là des choses, en tout cas dans la librairie du Triangle, vous paraît déterminant et confirmer une évolution de ce qu'est la conception des librairies dans l'aménagement des espaces et dans le...
Tout à fait. Il y a une étude sur la librairie indépendante qui est parue il y a quelques années. Et on interroge les clients de la librairie indépendante en leur demandant les raisons pour lesquelles ils viennent en librairie indépendante. Alors, il y a toutes sortes de critères qui sont énoncés. La première réponse qu'ils font, c'est à un endroit où l'on se sent bien.
Ah ben voilà.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Ouais. Un endroit où on se sent bien. Donc, ça veut dire, effectivement, d'être bien accueilli. Comme vous le disiez, de pouvoir s'asseoir, d'avoir un lieu agréable. Donc, voilà. Alors, selon les finances des librairies, il y a des librairies qui ont plus ou moins de moyens.
Oui,
c'est pas
sûr.
Toujours évident d'avoir des aménagements dernier cri ou particulièrement réussis. Mais je pense que le conseil, l'accueil... peuvent justement parer, entre guillemets, à ce qui n'est pas matériellement toujours possible d'acquérir. Parce que voilà, c'est le mobilier en librairie est assez cher.
C'est cher. En plus, comment j'utilise l'espace dont je dispose.
Voilà,
pour
exactement.
Laisser la place au livre et donc diversifier l'offre autant que c'est possible, comme vous l'avez dit. Et puis, trouver ces espaces plus doux, je dirais, où on a plaisir à séjourner.
Voilà. Et je pense que dans nos librairies, les gens se sentent bien, du moins je l'espère. On fait tout pour qu'ils se sentent bien. Et à Comédie, vous avez des sièges, je vous le confirme. Vous pouvez flâner, feuilleter votre livre tranquillement. Voilà.
Voilà. Ça vaut aussi, j'imagine, pour les rayons destinés aux enfants.
Tout à fait.
Aux plus jeunes lecteurs, pour que là aussi, ils s'y sentent à l'aise. Alors, question attendue, mais question inévitable. Bon, quel est, selon vous, l'avenir du livre, je veux dire, du livre papier ? Est-ce que vous avez, je dirais, là-dessus, j'imagine que c'est un sujet que vous suivez avec attention, avec vos collaborateurs. Est-ce que vous restez optimiste ou est-ce que c'est, je dirais, un optimisme un peu forcé ? Parce qu'il y a surtout
non, ce n'est pas un optimisme forcé du tout, parce que depuis 17 ans que je suis dans ce métier, on a eu toutes sortes d'alertes sur le livre numérique, le livre audio. Donc, il continue à progresser, il ne faut pas être naïf, mais le livre papier tient la route. Je ne suis pas spécialement inquiète là-dessus. On voit le développement aussi de l'occasion. L'occasion, c'est
Ah oui, alors ça, je voulais bien en parler parce que d'autres métiers du commerce développent les différentes formes d'occasion ou de reprise, etc.
Voilà.
C'est aussi votre cas ?
Tout à fait. On fait le livre d'occasion, on reprend les livres. Et donc, ça veut dire quand même que... les gens pourraient s'orienter vers le numérique parce que c'est moins cher, ils font aussi le choix de l'occasion. Donc ça, là, c'est du livre papier. Donc, quelque part, ça reste un objet symbolique, le livre. Je pense que ça reste un objet qu'on a envie de posséder.
Ouais,
et il y a un rapport un peu charnel.
Il y a un rapport à l'objet livre.
À l'objet
qui
est important et qui est plutôt rassurant parce que moi, je veux saluer le travail des éditeurs parce que c'est vraiment ce sont des beaux objets. Voilà.
Qu'on a plaisir à feuilleter.
Tout à fait, qu'on a plaisir à transmettre, à partager aussi avec d'autres personnes. Parce que partager un livre sur un écran,
c'est pas la même chose.
Que de fois en librairie, j'ai entendu les gens rentrer nous dire « Oh, j'adore l'odeur des livres voilà. ».
Oui, exactement.
Et ça, c'est bête, mais je l'ai très souvent
entendu. De papier, d'encre et de colle, là,
voilà,
ça je fais.
Tout à fait.
Il m'arrive de mettre le nez en ouvrant le livre. J'ai quoi cette sensation très tactile, très physique.
En fait, c'est l'odeur de l'encre et... Et les gens sont très sensibles à ça, donc ça fait appel à nos sens. Donc je ne suis pas très inquiète. On a été inquiet quand on a vu le livre numérique arriver, et puis en fait non, voilà.
Oui, parce que l'alerte, me semble-t-il, a été, bon, pour suivre ça d'un œil lointain, mais d'un œil tout de même, il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand on a cru qu'il y aurait une déferlante numérique terrible, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres secteurs, dans d'autres activités. Et là, il y a une espèce d'équilibre qui s'installe.
Voilà, et en plus, les gens qui consomment du numérique, ils ne renoncent pas forcément à consommer du livre papier. Ça peut être aussi un complément, ça peut être un plus.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ce n'est pas le même usage.
Ce n'est pas le même usage.
Très bien. Alors, on va revenir à vous, madame, si vous voulez bien. Vous travaillez, mais vous avez un peu de temps pour lire, j'espère. Quels sont les genres, d'abord, que vous aimez, que vous affectionnez particulièrement, le ou les genres? Et puis, peut-être citer quelques auteurs qui ont particulièrement votre faveur.
Alors, moi, sans surprise, ayant dirigé un rayon littérature pendant de nombreuses années, je suis vraiment portée sur les romans. J'ai particulièrement d'intérêt pour la littérature étrangère.
Ah oui, mais qui n'est pas d'hier, j'imagine, non plus.
Cette non, ça a toujours été,
là, d'horizons nouveaux ou de formes littéraires qu'on trouve moins chez les écrivains français.
C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que ça permet de découvrir toutes sortes de cultures, de pays, d'habitudes, de modes de pensée. Qui nous sont moins familiers. Et ça, sans bilan carbone, je tiens à le préciser. Donc, c'est plutôt bien. Et ça ouvre l'esprit sur d'autres façons de penser. Et voilà, donc à ce titre-là, j'ai lu pas mal de littérature anglo-saxonne. Et puis, j'ai toujours une passion pour la littérature japonaise.
Pardon, pour ?
Pour la littérature japonaise.
Ah oui, c'est-à-dire, pour le coup, là, voilà, on change complètement de repère.
Et pour la littérature israélienne, voilà.
Donc, il vous évade, donc il vous permet de vous évader, d'aller ouvrir de nouvelles portes. Et alors, plus récemment, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement plu, voire emballé, là, dans vos lectures de ces derniers mois?
Petite
recommandation de la directrice générale de Soram.
Une recommandation. J'ai lu un très beau livre de Yudi Kiss, qui est aux éditions de l'Antilope, qui s'appelle « L'été où mon père est mort ». Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être au chevet de son père et qui va découvrir une histoire qu'elle ne connaît pas de sa famille. Voilà, c'est très beau, c'est traduit du hongrois. Voilà.
Très bien, voilà. Donc
c'est aux éditions de l'Antilope, qui est une maison d'édition qui publie des livres souvent traduits du yiddish ou de l'hébreu et de très grande qualité.
Très bien, merci. Alors, dernière question, est-ce que pour le bénéfice des auditeurs et des auditeurs de Divergence, vous pouvez nous annoncer une petite nouveauté, une signature importante ou une animation que vous organisez dans les prochaines semaines pour donner à nos auditeurs, venir chercher pâture chez vous, comme ils le font, je le suppose, dans d'autres librairies de la ville.
Tout à fait. Alors, on va recevoir le 26 septembre, on va recevoir Gilles Kepel. On va le recevoir, c'est la médiathèque Emisola qui le reçoit. Et donc, ça se fait à l'auditorium de la médiathèque. C'est nous qui le recevons, au sein de la médiathèque. Nous allons recevoir
Gilles Kepel, grand spécialiste des questions de moyens de l'islam, etc.
Tout à fait. Ensuite, nous allons recevoir Andrei Kourkov, qui est un auteur ukrainien, qui est polyglotte. Et donc là, qu'on reçoit pour son dernier livre. Et là, ça se fait à Comédie le 3 octobre. On va recevoir Amélie Nothomb. Le 22 novembre.
Oui, qui a sorti son livre il y a quelques jours. Mais avec
donc,
je n'ai
pas
grand
besoin
écho,
de la présenter. Je pense que tout le monde la connaît. Et puis, on attend des confirmations aussi pour... toujours dans les choses importantes, on organise la nuit One Piece qui va se dérouler le 29 septembre. Donc là, c'est une sortie avant la date du dernier manga One Piece. Donc je crois que c'est le numéro 105 de mémoire.
Donc là, les amateurs vont se précipiter.
Voilà, donc là, il faut qu'ils s'inscrivent sur notre site. Et puis, toujours dans le manga, la nuit Spy Family. Spy X Family, pardon, donc toujours le 11 octobre à Comédie et Odyssée. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Et dans les noms qu'on attend, dont on attend confirmation, on devrait recevoir Johann Sfar certainement fin novembre. D'accord. Ou début décembre. Voilà.
Figure, donc là, on est ravis. Figure de la BD française, mais pas que.
Mais pas que, voilà.
Voilà. Merci beaucoup, madame. On arrive au terme de cette émission. Vous avez vu, ça file très vite. Hein.
Tout à fait.
Merci à vous. Et donc,
mais merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Et bonne journée à vous.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.